France Info.
Et bienvenue dans Les Informés jusqu'à 9h30 sur France Info Radio et France Info Télé, Canal 27. Avec autour de la table ce matin, Pauline Thévenot, journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bienvenue Pauline.
Merci, bonjour.
Et à vos côtés, Adrien Beck, chef adjoint du service bonjour. Politique de France Info. Bien évidemment, Renaud Dellier est là.
Et, oui,
et on est ravis.
Bonjour Fabien.
Bonjour Renaud. Renaud, ça y est, l'IVG est inscrit dans la Constitution française.
Voilà, donc un vote, une très large majorité hier lors du congrès qui s'est réuni à Versailles. Une très large majorité, 780 voix pour et seulement 72 contre. Voici donc que la liberté garantie aux femmes de pouvoir recourir à l'IVG est inscrite désormais dans la Constitution. La France est le premier pays au monde à avoir adopté cette réforme, à l'occasion donc d'une réunion historique du Congrès, réunion durant laquelle le Premier ministre Gabriel Attal a tenu à rendre hommage à celle qui avait porté en son temps, c'était il y a 50 ans, la loi légalisant l'IVG.
Aujourd'hui, le présent doit répondre à l'histoire. Alors mesdames et messieurs les parlementaires, 50 ans plus tard, sous le regard de la famille de Simone Veil, que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ses insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil.
50 ans après, l'IVG donc portée en 1974 par Simone Veil est donc inscrite dans la Constitution, une décision historique, fierté française, message universel, a réagi Emmanuel Macron. La France est donc le premier pays au monde, je le disais, à adopter cette réforme. Est-ce que ce succès sur une réforme sociétale, succès transpartisan, évidemment une large majorité transpartisane, pourrait inciter l'exécutif d'une part à espérer obtenir des majorités sur d'autres révisions constitutionnelles? On sait que plusieurs ont été annoncées par le chef de l'État, notamment ce qui concerne la Corse, le droit du sol à Mayotte, la Nouvelle-Calédonie ou encore la décentralisation. Et puis d'autre part, sur le plan des réformes sociétales, il y en a une autre, plusieurs fois annoncée, plusieurs fois repoussée, qui est toujours dans les cartons de l'exécutif, c'est la loi sur la fin de vie. Elle aussi, d'ailleurs, un principe légiféré sur la fin de vie qui semble soutenu par une majorité de l'opinion. Est-ce que le succès transpartisan, encore une fois, qui s'est concrétisé hier, pourrait inciter le gouvernement à aller plus vite dans cette direction ?
Pauline, d'abord sur ce qui s'est passé hier, journée historique.
Historique, absolument. On voit bien que ça parachève là quand même un combat féministe et c'est à noter. On sait que la date s'inscrira désormais dans les livres d'histoire. Et puis, si on regarde la petite histoire, celle de la législature qui a démarré en 2022, eh ben c'est peut-être le seul moment de grande, très grande concorde. C'était pas l'unanimité, mais il y a eu une immense majorité de parlementaires pour voter sur ça. Des débats qui se sont tenus dans un climat apaisé, serein. Et c'est à noter aussi parce que finalement, ces assemblées, en particulier le Palais Bourbon depuis 2022, bah, tous ces derniers mois, nous avaient plus habitués aux affrontements avec des mots très très violents, aux jeux politiciens, à des atmosphères surchauffées. Mmh. Et voilà, bah, là, ça s'est passé dans un climat apaisé et ça fait du bien. C'était une petite parenthèse.
Le Premier ministre Gabriel Attal qui a salué justement cet effort transpartisan. Il l'a reconnu dans son discours.
Et c'est assez unique, effectivement, comme le disait Pauline, et Renaud a insisté sur le terme transpartisan. C'est précisément la spécificité du moment qu'on a vécu hier, c'est-à-dire que ça part d'initiatives parlementaires, ça va à l'Assemblée, ça va au Sénat. Finalement, il y a des mots qui changent parce que ça convient pas aux sénateurs. Finalement, Emmanuel Macron reprend le projet avant de le soumettre au Congrès. Tout ça passe par les différentes chambres. En fait, il y a eu un travail, vraiment, il y avait en tout cas une volonté, peut-être moins politicienne que d'habitude, et la volonté d'avancer tous sur ce sujet. Sans doute aussi parce qu'il y a eu effectivement une forme de pression de l'opinion publique. Des sénateurs ont raconté même la pression de leurs proches. Et donc c'est effectivement intéressant de voir ce moment où même nous, journalistes politiques, on a pu être parfois un peu surpris par la qualité des débats, par le fait que c'était finalement assez peu politicien, mais est-ce que cela...
Il faut le dire, en fait, plusieurs partis ont participé
oui,
à l'élaboration du texte.
Ça part de la France insoumise, il y a aussi des
écologistes,
Aurore Berger,
des
sénatrices communistes, enfin, en fait, ça émane quand même d'un certain nombre de partis. Finalement, la droite s'est un petit peu raccrochée au wagon derrière, même si initialement, elle n'était pas forcément partie pour être d'accord, et donc tout ça crée une espèce de climat, mais qui... aussi dit quelque chose du caractère unique de ce moment, et pour commencer peut-être à répondre à la question de Renaud, qui donc ne présage pas forcément de ce que seront de futurs textes.
Les informés, Renaud Dellier, Salia Brakia.
De retour sur le plateau des informés avec Pauline Thévenoux, journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Adrien Beck, chef adjoint du service politique de France Info. Renaud Delis, on se disait juste avant le fil info, l'IVG, ce qui s'est passé autour de l'IVG dans la Constitution, est-ce que ça peut se reproduire pour d'autres textes?
Alors oui et non. Non, là où je suis d'accord avec Adrien Beck à l'instant, c'est effectivement, je crois qu'il y avait un climat très particulier autour de ce texte, une dimension historique, symbolique, ça a été dit, ce qui a, s'est traduit par cette très large majorité parlementaire, et donc appuyé par un quasi-consensus de l'opinion, hein, plus de 85-90% des Français, selon les enquêtes qui étaient favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ça, c'est un cas quasi unique qui, par exemple, ne se reproduira probablement pas lors des éventuelles futures révisions constitutionnelles annoncées par l'exécutif, si tant est que ces révisions aillent jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au Parlement. On peut penser par exemple à l'autonomie de la Corse, qui est en débat. Si jamais cette révision voit le jour, on sait par exemple en particulier qu'il y a des réticences, voire des oppositions assez franches, plus particulièrement du côté de la droite, voilà, qui pourrait s'exprimer. À l'inverse, la suppression du droit du sol à Mayotte, annoncée par Gérald Darmanin lors de son dernier déplacement, pourrait, cette réforme-là, si là aussi elle donne lieu à une révision constitutionnelle, se heurterait sans aucun doute à l'opposition au moins de la gauche, si ce n'est au-delà. Et même au sein de la majorité, il y aurait probablement des divisions. Donc on voit bien que là, sur ces révisions constitutionnelles qui sont dans les tuyaux, en quelque sorte, on aura du mal à arriver au même climat d'unanimisme que celui qu'on a observé hier à Versailles. En revanche, il y a un autre sujet qui ne donne pas lieu à une révision constitutionnelle, mais qui est une réforme sociétale importante, qui, elle, était dans le programme, d'ailleurs, du candidat Emmanuel Macron.
Oui.
C'est la loi sur la fin de vie. L'inscription de l'IVG dans la Constitution n'était pas dans le programme du candidat Emmanuel Macron. Cette loi sur la fin de vie, on voit à quel point le chef de l'État, depuis maintenant de nombreux mois, a pris des précautions, il y a eu la convention sur la fin de vie qui a rendu son rapport il y a près d'un an, c'était au mois d'avril dernier. Il a consulté à de multiples reprises les cultes en particulier pour essayer de ménager les consciences, pour ne pas braquer les mentalités, c'est ce qu'on dit du côté de l'Élysée. Et là aussi, on a quand même, sur le principe de légiférer sur la fin de vie, une très large majorité dans l'opinion, selon toutes les enquêtes d'opinion, donc peut-être que de ce point de vue-là, ce qui s'est passé hier, et au-delà, depuis autour de ce débat sur l'IVG dans la Constitution, peut finalement aboutir à une solution, à, peut-être pas unanime, pas consensuelle, il y a des débats sur la fin de vie, mais on peut peut-être arriver quand même près d'une législation assez soutenue par une large majorité. Là encore, là, ça n'est pas une révision constitutionnelle en plus, donc là, il n'y a pas besoin d'une majorité des 3/5, mais il faut une majorité simple.
Mais Emmanuel Macron peut profiter de l'élan de l'IVG pour agir sur la fin de vie, Pauline Thévenoux?
Oui, alors je ne sais pas si on peut formuler les choses en ces termes, parce que comme le disait Renaud à l'instant, Emmanuel Macron, il est d'une prudence absolue sur ces sujets-là. Donc je ne sais pas si même il conceptualise l'idée d'élan en la matière. On voit plutôt qu'il avance à pas très 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 feutré, très prudent, au point même que il y a des interrogations sur ce que lui pense réellement de ce sujet.
Oui, lui-même dit qu'il évolue sur le sujet au fur et à mesure.
Voilà, mais il y a des militants du droit à mourir dans la dignité qui disent finalement, même qu'il parle d'ambiguïté, qui disent qu'il essaye de un peu contenter tout le monde, ou en tout cas de ménager tout le monde, de braquer personne. Donc, je ne pense pas qu'il se départira de cette prudence et qu'il se dira allons-y, comme il peut être un peu à la Hussarde ou Sabre-Clair sur les réformes économiques. Par contre, il y a un véritable parallélisme à faire avec l'IVG. C'est que la fin de vie aussi, c'est un sujet qui est travaillé depuis très très longtemps au Parlement, de façon transpartisane. Il y a eu des propositions de loi qui ont été travaillées lors de la mandature précédente, en 2021. Il y avait même eu à cette occasion une lettre des députés, avec notamment des députés de la majorité, demandant à l'exécutif de mettre ce sujet à l'ordre du jour. Il y a aussi une opinion qui est favorable. Et donc, finalement, tout ça peut cheminer vers un débat, si ce n'est peut-être pas autant consensuel que l'IVG, mais en tout cas un débat apaisé. Dernière chose, ce dimanche, dans Ouest France, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, elle disait quelque chose d'important. Elle disait qu'à ses yeux, ce débat prendrait 1 an, voire 2 ans au Parlement. C'est-à-dire que là, pas de procédure accélérée. Ouais. On prend le temps d'en discuter, d'en débattre, et ça, ça peut aider aussi à la sérénité des discussions.
Adrien Beck.
Il y a deux aspects. L'opinion, effectivement, est favorable, comme sur l'IVG. Néanmoins, il y a toujours une complexité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce à quoi l'opinion est favorable quand on rentre dans le détail des propositions, parce que précisément, il n'y a pas encore de proposition de la part d'Emmanuel Macron sur la table. Il y a quand même une difficulté, malgré tout, qui n'est pas insurmontable, mais qui est quand même assez différente par rapport à ce qu'on a pu connaître sur l'IVG, c'est que dans les partis, il y a des oppositions. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup moins de lignes politiques, en fait, que peut-être que sur l'IVG.
C'est-à-dire
que vous avez des communistes, par exemple, qui ont des difficultés avec les sujets de fin de vie, alors que vous avez sans doute des députés RN qui doivent y être très favorables. Et au milieu de ça, vous avez, j'imagine, y compris, par exemple, sans doute chez Horizon, sans doute au MoDem, avec l'historique un peu chrétien-démocrate, des personnes qui ont sans doute un petit peu des difficultés. Donc c'est pour ça que le temps qui va être pris pour ce texte va vraiment être nécessaire, parce que même si c'est une majorité simple, c'est beaucoup plus difficile à lire qui peut être pour, qui peut être contre, qui peut s'abstenir. Donc évidemment, Emmanuel Macron prend aussi le temps, parce qu'il sait qu'il n'a absolument pas le droit à l'erreur sur un texte comme ça, qui est un texte attendu.
Et dans la méthode, il a raison de consulter les cultes, justement.
Alors, rappelons quand même, juste sur le calendrier, même s'il a changé à plusieurs reprises, que Gabriel Attal a annoncé un premier débat parlementaire avant l'été. Normalement, le texte devrait être dévoilé là au printemps et
cesser d'être décalé quand même.
Oui, évidemment. Non, mais il peut y avoir un nouveau décalage. On a bien compris et on a cessé de le dire depuis tout à l'heure qu'effectivement l'exécutif prend son temps. Mais normalement, là, il y a un nouveau calendrier qui est fixé. Et du côté de l'Élysée, on évoque une intervention prochaine du chef de l'État, même si c'est pas lui qui va dévoiler dans le détail le texte. Il a eu raison, sans aucun doute, de recevoir, de ménager les cultes. Ça faisait partie de ce processus, bien sûr. Mais on voit aussi, y compris à travers l'adoption de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, à quel point les cultes sont aujourd'hui sur un certain nombre de ces questions, en l'occurrence, on l'a vu hier, ont une influence marginale sur la société française aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Le Vatican, la conférence des évêques de France appelle au jeûne et à la prière, le Vatican a réitéré son opposition, ça n'empêche pas que 90% de l'opinion était favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, et on voit bien que ça n'a pas pesé sur l'issue politique. C'est en ce sens que je pense qu'il peut y avoir un parallèle. Il y a un débat qui est plus compliqué sur la mise en œuvre et les conditions d'encadrement de la législation sur la fin de vie, de l'aide active à mourir, jusqu'où on va, la question du suicide assisté, la question de l'euthanasie, surtout si jamais elle doit passer par l'acte d'un tiers, évidemment, dès lors que le patient en fin de vie ne pourrait pas lui-même s'administrer le produit nécessaire pour abréger ses souffrances. Toutes ces questions-là, elles demeurent. Et on voit bien que, de ce point de vue-là, le chef de l'État, d'ailleurs, comme une bonne partie de la majorité, sont extrêmement prudents. Mais sur le principe, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une large frange de l'opinion, enfin une nette majorité qui est favorable au principe, reste à voir les conditions d'encadrement. Et puis il peut aussi se produire sur ce débat-là, ce qui s'est produit sur l'IVG, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre de sénateurs qui ont expliqué qu'ils avaient évolué justement en écoutant des témoignages, des récits de femmes qui leur ont expliqué à quel point c'était important de sanctuariser en quelque sorte cette réforme dans la loi fondamentale. Là aussi, on en entend tous les jours et on en connaît des témoignages. On est aux prises de plus en plus, et évidemment au regard du vieillissement démographique, avec cette réalité de la question de la fin de vie. Et ces témoignages-là, ces récits, ces expériences peuvent aussi participer de la maturation d'une décision politique raisonnable.
D'un tout petit mot, il faudra juste pas qu'il y ait dans le texte la mesure qui va cristalliser, qui va susciter des passions. Ouais. C'est toujours le risque. On l'a vu sur plein de réformes d'Emmanuel Macron. Et donc, c'est sans doute aussi ce à quoi il travaille pour éviter d'avoir la mesure dont tout le monde va parler, qui parfois ne sera qu'un symbole, mais qui, en fait, peut cristalliser et empêcher ce que vient d'évoquer Renaud, c'est-à-dire que, effectivement, certains peut-être changent d'avis et donc créent une majorité.
Les informés, Renaud Dely, Samia Brakia.
Et les informés continuent avec Pauline Thévenot, journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Adrien Beck, chef adjoint du service politique de France Info. Renaud, on en vient au deuxième thème de ces informés. L'Europe s'attaque aux emballages plastiques à usage unique.
Un véritable fléau, effectivement, en matière de pollution, évidemment, auquel s'attaque l'Union européenne. Rappelons que les déchets d'emballage ne cessent d'augmenter, près de 190 kilos par habitant sur une année. Ça, ce sont les derniers chiffres qui datent de 2021 et qui qui illustre une progression de 32% en 10 ans, un tiers d'augmentation. Une nouvelle réglementation est donc en discussion au Parlement européen qui vise à imposer notamment aux emballages d'être recyclables d'ici à 2030 et recyclés d'ici à 2035. Il s'attaque plus spécifiquement aux emballages à usage unique. Effectivement, un texte extrêmement fouillé dont l'adoption n'est pas encore achevée, qui détaille donc une liste d'emballages. S'agit-il d'une véritable révolution capable de changer nos usages et aussi nos mentalités de consommateurs? Et puis d'ailleurs, comment la mettre en œuvre cette révolution dès lors qu'elle se heurte à un certain nombre d'opposition, de lobbying? Voici ce qu'en disait ce matin sur l'antenne de France Info Pascal Canfin, député européen Renew et président de la commission environnement au Parlement européen.
C'est le texte du pacte vert qui a été le plus lobbyé de tout le mandat européen. Parce qu'à chaque ligne, vous aviez un intérêt industriel derrière. Mais je note qu'il y a des entreprises qui ont fait un lobbying offensif pour aller vers davantage de réutilisation, davantage de vrac, moins de déchets, plus de recyclabilité, etc. Et puis d'autres qui ont fait un lobbying défensif.
Un lobbying défensif qui a d'ailleurs contribué à à intégrer dans ce texte un certain nombre d'exceptions, de dérogations, un calendrier qui lui-même s'étend un petit peu dans la durée. Donc est-ce qu'on peut effectivement espérer que l'Union européenne contribue à couper en quelque sorte notre dépendance au plastique? Puis il y a aussi le fait que la France, et Pascal Canfin le rappelait ce matin, se veut plus vertueuse que d'autres en prenant des législations un peu plus ambitieuses. Est-ce que la France, là aussi, peut être un modèle pour ses partenaires?
Pauline Thémiot.
Il ne s'agit pas de pécher par excès de pessimisme, mais on a un exemple en France, justement, 2020, il y a la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire qui a été adoptée. Et récemment, il y a un rapport d'ONG qui a démontré que en fait, ces effets n'étaient pas si incroyables que ça, pour plusieurs raisons. Parce que le lobbying, dont parlait Pascal Canfin en amont et dans la fabrique de la loi, il s'exerce aussi a posteriori. Et donc, les ONG dénoncent, par exemple, un décret qui a été publié pour poser des exemptions à l'emballage des fruits et légumes. Ça, c'était après le vote, bien après le vote de la loi. Les ONG, elles expliquaient aussi qu'en fait, il y avait plein de mesures qui n'étaient pas réellement mises en œuvre, et notamment parce qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle et que les sanctions n'étaient pas suffisamment dissuasives, typiquement les gobelets en plastique ou les sacs en plastique dans les magasins. Donc on voit que c'est non seulement extrêmement difficile en amont du vote de la loi, mais qu'après c'est pas si simple non plus. Et donc, cet exemple de la loi anti-gaspi montre que c'est pas d'un coup de baguette magique parce qu'un texte est voté que les choses sont appliquées derrière, surtout en matière environnementale.
Une loi suffit pas, il y a aussi les comportements en fait.
Oui, absolument, il y a les comportements et il y a aussi la philosophie parce que pour ce qui est du plastique, il y a en consommer moins tout simplement et ou le recycler. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 15% du plastique au niveau mondial est recyclé, donc ce qui est quand même vraiment peu, mais que finalement, y compris des pays, alertent sur le fait que se contenter de recycler le plastique ne sera pas suffisant, parce que vous avez des fuites, parce que recycler, ça consomme de l'électricité, en tout cas de l'énergie. Donc finalement, la question, c'est quand même comment on arrive à baisser globalement le volume de plastique, non pas seulement consommé, mais donc fabriqué.
Il y a des industriels qui ne font pas le jeu.
Voilà, c'est l'œuf ou la poule. Mais donc effectivement, le sujet est là quand Renaud parlait dans son introduction de recyclage. Le recyclage en soi n'est pas non plus la panacée, parce que recycler, ça veut dire qu'on continue de fait à en utiliser. Donc en fait, ça ne résout pas fondamentalement le problème.
C'est vrai que le recyclage ne résout pas la question évidemment de la production. C'est-à-dire que c'est même la production elle-même à l'origine qui pose problème. On voit un certain nombre donc d'industriels, de fast-food notamment, et d'autres, beaucoup d'autres, qui font du lobbying pour obtenir des dérogations ou des usages un peu divers et variés. Puis il y a un autre argument qui commence à être poussé par ceux qui cherchent justement à freiner cette législation ou ces restrictions, c'est la question de l'emploi, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'industriels qui disent, mais attention, l'emballage, c'est aussi une industrie qui fait vivre, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Donc on voit que cette législation, l'Europe, aussi vertueuse se veut-elle, quelles que soient ses ambitions, se heurte à ces lobbying-là. Et puis au-delà, comme le disait très bien Pauline Thémiot, c'est vrai que de toute façon, ça renvoie ensuite à une mise en œuvre, une mise en pratique au jour le jour, quasiment secteur par secteur, et donc forcément à des contrôles, à des sanctions, à des pénalités pour ceux qui dérogent à ces réglementations qui, pour l'instant, ne suivent pas, sans parler même d'une autre dimension qui est celle de nos comportements, oui, de nos usages, de nos mentalités, parce que c'est vrai que tout en la matière ne tombe pas d'en haut et que ça dépend aussi des comportements individuels et d'une forme de prise de conscience collective.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Pauline Thévenot, journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France. On va donc en profiter pour voir la une du jour sur les différents trafics, notamment de cigarettes dans le 18e arrondissement de Paris. C'est un article à lire, un dossier à lire ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Adrien Beck, merci à vous, chef adjoint du service politique de France Info. Nous, Renaud, on se retrouve avec grand plaisir demain.
Pas plaisir partagé, bien sûr. Vivement demain.
Vivement demain. Les informés sont retour ce soir à 20h.